Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal de 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité. Ce soir, Londres et le Royaume-Uni coupés de l'Europe. De nombreux pays européens ferment leurs liaisons aériennes et ferroviaires avec le Royaume-Uni. L'annonce par le gouvernement britannique d'une nouvelle souche hors de contrôle du coronavirus inquiète les Européens. Emmanuel Macron convoque un conseil de défense exceptionnel à Londres. Les habitants fuient la ville. Explication, reportage dans un instant. La nouvelle souche de coronavirus identifié en Grande-Bretagne est particulièrement surveillé et étudié par les scientifiques. Londres parle d'une variante du virus plus contagieuse. Nous ferons le point avec Hélène Chevalier et l'Institut Pasteur. Dans ce journal également, l'élection de Miss France ternie par des insultes antisémites sur Twitter contre la première dauphine, April Benayoum. La classe politique dénonce un déferlement abject d'antisémitisme. Marlène Schiappa va saisir la justice.
Je trouve anormal que reste 24 heures en ligne un tweet qui fait l'apologie de la Shoah, qui appelle à la haine vis-à-vis d'une jeune femme vingtenaire qui participe à un concours télévisé.
Vos rendez-vous du 19h, la page sport avec la finale en ce moment de l'Euro de handball. Les Françaises affrontent les Norvégiennes qui menaient à la mi-temps 16-13. Le match vient de reprendre et puis au menu également du football avec Lille PSG ce soir et nous nous intéresserons aux associations de quartier impliquées dans le sport auprès des jeunes et dont le travail est menacé en raison de la crise sanitaire. Notre coup d'œil sur l'agenda des temps forts de l'actualité avec les moments à suivre la semaine prochaine. Et en fin d'édition, c'est mon actu, notre rendez-vous du dimanche soir. Comment dépenser 200 millions d'euros? C'est la somme record gagnée la semaine dernière. 200 millions d'euros au pied du sapin avec Sandrine Houdin. La météo pour demain, temps doux mais perturbé avec de la pluie sur toutes les régions. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal et à 19h30. Les petits bateaux, Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Joseph. J'ai 6 ans et demi et je voudrais savoir quelle est la différence entre les Romains et les barbares.
Réponse à 19h30, les petits bateaux.
France Inter.
Une barrière sanitaire mise en place autour du Royaume-Uni. La découverte d'une nouvelle souche du virus plus contagieuse et hors de contrôle, selon les termes du ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a poussé plusieurs pays européens à suspendre les vols et les trains en provenance ou à destination du Royaume-Uni. La France envisage également de suspendre ses liaisons avec la Grande-Bretagne. L'Allemagne, qui envisageait de réduire ses liaisons avec le Royaume-Uni, va finalement les stopper ce soir à minuit. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Frédéric.
Alors plusieurs entretiens ont eu lieu cet après-midi au niveau européen, notamment entre Paris, Berlin et Bruxelles.
Oui, les conversations entre dirigeants européens se sont multipliées ces dernières heures. La France et l'Allemagne voudraient apporter une réponse européenne à ce nouveau rebondissement qui a d'abord suscité des réactions fébriles et individuelles en ordre dispersé. Successivement, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, la Bulgarie ont annoncé l'arrêt des vols et des trains en provenance du Royaume-Uni. L'Allemagne a ensuite indiqué qu'elle suspendait ce soir à minuit ses liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne, une position qui pourrait être adoptée par l'Autriche, puis par l'ensemble de l'Union européenne. L'Irlande vient à son tour d'imposer des restrictions sur les avions et les ferries venant du territoire britannique pour au moins 48 heures. Le Brexit, une nouvelle fois, complique la situation, car le gel des vols du Royaume-Uni vers le continent est fondé sur une directive européenne et la Grande-Bretagne ne quittera pleinement l'Union que le 31 décembre. Au-delà, il faudra une autre disposition pour prolonger la suspension des liaisons aériennes. Cette nouvelle crise se conjugue avec les ultimes discussions, souvent tendues, on le sait, entre Londres et Bruxelles sur les futures relations avec les 27.
Bertrand Galichet, merci. Cette nouvelle souche du virus plus contagieuse inquiète, on l'a entendu, l'Europe. Paris suit de très près cette situation au Royaume-Uni. L'Élysée a donc réuni un conseil de défense sanitaire exceptionnel par visioconférence autour d'Emmanuel Macron et une communication aura lieu dans la soirée. L'inquiétude monte donc, d'autant que Londres parle d'une variante hors contrôle et plus contagieuse du coronavirus. Cette nouvelle souche qui aurait infecté plus d'un millier de personnes en Angleterre est particulièrement surveillée et étudiée par les scientifiques, Hélène Chevalier.
Oui, en fait, le virus mute en permanence depuis son apparition. Les scientifiques ont déjà compté 8 variantes, mais ce qui intrigue avec celle observée en Grande-Bretagne, qui pourrait devenir une 9e variante, donc, c'est qu'elle porte un plus grand nombre de changements génétiques que les autres, une 15aine, et que plusieurs touchent à la fameuse spike, une protéine clé qui permet au virus de pénétrer dans les cellules humaines. Ces mutations pourraient-elles rendre le virus plus dangereux? De ce côté-là, les scientifiques se veulent pour le moment rassurants, à l'image du professeur Étienne Simon Laurière. Il est responsable du laboratoire évolution génomique des virus ARN à l'Institut Pasteur.
Jusqu'ici, l'ensemble des mutations qui sont apparues dans le génome du virus n'ont pas du tout changé la dangerosité du virus. Il y a certaines qui ont légèrement augmenté sa transmissibilité, mais au final, c'est la même maladie, c'est le même spectre de symptômes qui sont causés chez les gens qui sont affectés.
Alors, cette nouvelle souche serait-elle en revanche plus contagieuse, comme le répète le gouvernement britannique? Le nombre de personnes atteintes de cette variante a fortement augmenté ces derniers jours. Un immunologiste anglais estime qu'elle serait de 40 à 70% plus transmissible, mais aucune publication scientifique ne le prouve pour le moment. Un relâchement de la population ou les conditions climatiques pourraient aussi expliquer cette recrudescence de cas en Grande-Bretagne.
Hélène Chevalier, merci. Londres, confinée et depuis hier soir une ville fantôme du coronavirus. Il devient de plus en plus difficile de quitter la capitale anglaise et après un vent de panique hier soir à Londres, juste après l'annonce du confinement, eh bien les habitants ont cherché toute la journée à fuir la capitale. Reportage Maxence Peignet.
Ce sont des scènes de cohue que le gouvernement voulait absolument éviter. Hier soir, juste après l'annonce des nouvelles restrictions touchant Londres et le sud-est de l'Angleterre, de nombreux Britanniques se sont rués sur les gares pour fuir la capitale. Sur les réseaux sociaux, les vidéos montrent des voyageurs au coude à coude en attendant leur train. Pas de distanciation sociale, mais une course contre la montre pour quitter la région avant son entrée en niveau d'alerte maximale. Ce matin, le ministre de la Santé, Matt Hancock, appelait à nouveau tout le monde à la prudence sur les matinales télévisées. Je trouve cela choquant, a-t-il expliqué, et je vous dis que nous devons établir un confinement efficace dans une grande partie de l'Angleterre à cause de cette nouvelle souche et dans le but de sauver des vies. Je comprends tout à fait que les gens soient frustrés et déçus par la situation. Comme Boris Johnson la veille, il a rappelé qu'il faudrait faire des sacrifices pour Noël. Ce qui compte, a-t-il martelé, c'est la responsabilité de chacun. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un pour Noël, c'est de rester chez vous et de ne pas transmettre ce virus, car un tiers de ceux qui l'ont n'ont aucun symptôme. Londres, Maxence Peignet, France Inter.
Et on vient de l'apprendre à l'instant, la France également, après l'Allemagne et d'autres pays européens, suspend pour 48 heures les transports de marchandises et de passagers en provenance de Grande-Bretagne. La mesure prend effet ce soir à minuit. Donc dans cette succession d'informations angoissantes sur la pandémie et la progression de ce virus, une étude pointe un risque de troisième vague dans moins de 3 semaines, dès le 7 janvier, selon les projections du CHU de Nancy et de la Fédération hospitalière de France. Tout va se jouer à Noël et durant cette période des fêtes de fin d'année. Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France.
On voit très bien effectivement que ce pic de la deuxième vague qu'on a constaté au 15 novembre connaît depuis le début décembre un plateau qui à nouveau se traduit sur les lits hospitaliers. Et la manière dont va se diffuser le virus dans les 15 derniers jours du mois de décembre est fondamentale pour ce que sera la situation hospitalière dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. Les services hospitaliers s'organisent, reportent certains congés, même si de report en report, l'épuisement, il est réel, puisque on va de vague en vague, de rebond en rebond, de décrue en rebond, et que derrière, c'est effectivement des patients que l'on déprogramme, des services que l'on ferme, des personnels que l'on affecte à des services Covid, puis qu'on renvoie à leurs services initiaux, des vacances que l'on reporte, mais sans trop savoir quand les gens pourront les prendre, c'est effectivement compliqué.
Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France, avec Jules Dequisse. L'élection de Miss France, ternie hier soir par un déferlement d'insultes antisémites. April Benayoum, Miss Provence et première dauphine, a évoqué lors de l'élection ses origines et les racines israéliennes de son père. La jeune femme a aussitôt été la cible de commentaires antisémites sur les réseaux sociaux et sur Twitter. La classe politique a vivement condamné aujourd'hui cette haine antisémite. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'est dit profondément choqué, tout comme Elisabeth Moreno, ministre de l'Égalité homme-femme, qui parle de déferlement abject d'antisémitisme. Marlène Schiappa, ministre à la Citoyenneté, veut porter l'affaire en justice. Marlène Schiappa avec Rémi Brancato.
J'étais profondément choquée qu'on puisse répondre à une jeune femme qui participe à un concours de beauté, qu'on aurait souhaité que sa famille rejoigne les chambres à gaz, que Hitler n'avait pas terminé le travail et autres propos complètement ignobles. Il y a énormément de messages et donc on doit constituer le dossier pour pouvoir dès demain matin adresser ce qu'on appelle un article 40 au procureur de la République, c'est-à-dire faire un signalement. Je crois qu'il ne peut pas y avoir d'impunité en matière d'antisémitisme et en matière de propos haineux en ligne. La justice va travailler avec les plateformes, la justice retrouve retrouvera les auteurs de ces messages et ils devront prendre leurs responsabilités et répondre de ces appels à l'aide. C'est pour ça que j'ai réactivé le groupe permanent de contact au ministère de l'Intérieur avec les principaux dirigeants des réseaux sociaux pour qu'ils prennent leurs responsabilités aussi. Moi, je trouve anormal que reste 24 heures en ligne un tweet qui fait l'apologie de la Shoah et qui appelle à la haine vis-à-vis d'une jeune femme vingtenaire qui participe à un concours télévisé.
Marlène Schiappa avec Rémi Brancato. Et c'est donc Amandine Petit qui a été élue Miss France 2021. Amandine Petit, Miss Normandie, qui a également jugé extrêmement décevant ses propos déplacés. Elle a apporté son soutien à sa première dauphine. À Nantes, les opérations de déblaiement de la cathédrale débutent cette semaine, 5 mois après l'incendie volontaire qui a détruit le grand orgue et gravement endommagé l'édifice. Ces travaux complexes vont durer 2 mois, Marion Fersing.
Oui, c'est un gigantesque mikado de débris qui recouvre la tribune de l'orgue. Des morceaux de bois calciné de l'instrument, des morceaux en pierre de la voûte, mais aussi peut-être des morceaux de vitraux et des morceaux de sculpture du buffet d'orgue. Et ce mikado, il va falloir le démonter pièce par pièce. C'est ce qui est très compliqué, déjà parce que c'est en hauteur et ensuite parce qu'il y a des petits mais aussi de très gros débris à dégager. Pour eux, il faudra un engin de levage pour pouvoir ensuite les déposer sur le sol de la cathédrale. Là, tout ce qui aura été retiré de la tribune d'orgue sera d'abord examiné par la police judiciaire pour l'enquête et ensuite trié. Les morceaux qui n'ont pas d'intérêt seront envoyés dans une déchetterie spécialisée. Les autres seront dépollués pour pouvoir ensuite être restaurés parce que c'est ça qui complique encore un peu plus les opérations. Tout ce qui est à l'intérieur de la cathédrale a été contaminé par le plomb des tuyaux de l'orgue qui ont fondu. Toutes les personnes qui vont intervenir auront donc des tenues de protection complètes et avant d'attaquer le déblaiement, il va falloir nettoyer et sortir plus d'une centaine de bancs qui sont dans la nef.
Marion Fersing, France Bleu, Loire-Océan. Un rappel maintenant, il reste 4 jours pour terminer les courses de Noël. C'est le dernier week-end avant le réveillon, le plus gros week-end de l'année pour les commerçants. La plupart des magasins étaient bien sûr ouverts aujourd'hui et il y avait du monde. Exemple à Nice, reportage Sonia Gobry.
Eh bien, Nadia est contente de pouvoir flâner.
Je ressens plus le besoin de sortir pour acheter mes cadeaux plutôt que de le faire de chez moi sur un ordinateur.
Véronique a fait tous ses cadeaux de Noël. Pourtant, quand elle est sortie de chez elle, il lui manquait
tout.
Mais habituellement, elle s'y prend plus tôt.
Mais y aller dès que ça a été réouvert, non, il y avait trop de monde. Et puis, bah, du coup, voilà, ça s'est fait au dernier moment, mais c'est pas grave.
Audrey aussi a cherché un compromis.
Pour pas avoir à traîner dans les magasins, on a fait un click and collect, comme ça on allait chercher directement nos cadeaux.
Emmanuelle vend des bijoux et des objets de décoration. Elle confirme la crise du coronavirus. Le virus a modifié les habitudes de ses clients.
C'est moins la cohue que les années précédentes, pour un samedi avant le réveillon. Et ça s'est plus étalé, ça n'a pas été un rush à partir du 15, ça s'est fait dès la réouverture en fin de compte. Pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre, mais je pourrais faire un bilan que d'ici une dizaine de jours.
Parce que fêter Noël en plus petit comité offre un avantage selon Claire.
Ça me permet d'acheter des cadeaux plus tard aussi. Après, au fur et à mesure, quand on verra les gens, on leur donnera les cadeaux. Et puis aussi la fin du mois, la paye qui va tomber et tout ça, donc voilà, ouais, ouais.
Mais plusieurs Azuréens avouent qu'ils ne respecteront pas cette règle des 6 à table.
Sonia Gobry, France Bleu Azur. La page sport de cette édition sur France Inter. Bonsoir Imma Sarango.
Bonsoir.
Avec d'abord la finale de l'Euro de handball entre Françaises et Norvégiennes. Des Françaises qui veulent rester les Miss d'Europe et conserver leur 2e étoile face aux Norvégiennes. Et elles sont en train de remonter, visiblement.
Oui, les battantes, c'est le surnom des Bleues, sont les tenantes du titre. Bonsoir Xavier Monferrand.
Bonsoir Anna.
Vous suivez la finale pour France Inter et... À la 50e minute de jeu, les Françaises tentent de recoller au score des Norvégiennes.
Ouais, elles viennent d'égaliser à l'instant, 18 partout entre les Françaises et les Norvégiennes. Franchement, on peut le dire, c'est pas trop. Elles reviennent du diable Vauvert. Clairement, les Françaises, c'est incroyable. Elles étaient menées de 4 buts à la mi-temps. On ne voyait pas comment elles pouvaient récupérer cet écart, combler cet écart et repasser devant les Norvégiennes qui sont redoutables. Vous savez, les Norvégiennes, c'est les meilleures du monde. Elles ne sont championnes de rien. Mais elles étaient championnes de tout. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est que maintenant elles ont la rage, elles veulent récupérer leur titre. Et là, ce que sont en train de faire les Françaises, elles sont en train de rentrer dans la tête des Norvégiennes, de les faire douter. Et c'est maintenant que ça se joue dans les 10 dernières minutes, 18 partout. C'est presque un exploit.
Des Bleus qui peuvent dire merci à leur gardienne ce soir, Xavier.
Bah oui, parce qu'il n'y a pas eu de joueuse providentielle pour le moment en attaque côté français. Mais clairement, en première période, Amandine Leno et en deuxième période, surtout Cléopâtre Darleux, fait un match exceptionnel. exceptionnelle, vraiment, mais incroyable, la gardienne française de Brest. On pourra lui ériger une statue si les Françaises l'emportent, mais vraiment, elle fait un match extraordinaire et elle est en train, Cléopâtre Darleux, de redonner confiance à ses coéquipières et ça leur a permis d'égaliser 18 partout, donc après 52 minutes de jeu.
Et on vous tiendra évidemment au courant de l'évolution du score dans les prochaines minutes. C'est dans ce qu'on appelle la petite finale, le match pour la troisième place de cet Euro, ce sont les Croates, invités surprise du dernier carré, qui se sont imposés face au Danemark et remportent donc la médaille de bronze.
C'est le duel au sommet en cette fin d'année en Ligue 1 de football. Emma, Lille reçoit le PSG dans un peu moins de 2 heures maintenant au stade Pierre-Mauroy.
S'il y a un gagnant, il prendra la tête du classement à l'issue de cette 16e et avant-dernière journée de l'année 2020. Côté parisien, la star brésilienne Neymar est forfait et l'autre vedette Kylian Mbappé devrait débuter sur le banc. Tandis que côté nordiste, les joueurs risquent d'être un peu secoués par la valse de dirigeants et d'actionnaires Alexandre Vaux.
48 heures seulement avant le match, Lille a été rachetée par la société Callisto, propriété du fonds d'investissement luxembourgeois Marling Partners. Un changement malvenu avant de recevoir le PSG ce soir. L'entraîneur lillois Christophe Galtier a donc prévenu avant sa conférence de presse d'avant-match hier.
Je ne répondrai qu'aux questions concernant le match, rien que le match, concernant la nouvelle gouvernance, le changement de propriétaire, le rachat du club. Le président s'exprimera sûrement dans la semaine.
Le nouveau président, c'est Olivier Létang, en remplacement de Gérard Lopez, poussé vers la sortie par des créanciers inquiets de la situation financière. Le tout couplé à l'instabilité du foot français a de quoi crisper aussi les joueurs. C'est pourquoi le capitaine José Fonte tente de relativiser.
Ouais, la vérité, c'est qu'ils ont fait un bon travail. On a une très bonne relation, mais on connaît le foot. Il faut accepter et maintenant on a un nouveau président et il faut continuer à gagner.
Sauf que le PSG ne l'entend pas de cette oreille. Le triple champion de France en titre espère bien reprendre sa place de leader dès ce soir.
Dans les autres matchs de cette 16e journée de Ligue 1, il y en avait 6 cet après-midi. Rennes écrase Lorient 3-0, Bordeaux s'impose à Strasbourg 2-0, Monaco bat Dijon en Bourgogne 1-0, 2 matchs nuls de partout entre Brest et Montpellier, Saint-Etienne et Nîmes. Nantes s'en sort miraculeusement 1 partout face à Angers. Le stade de la Beaujoire devant lequel 300 supporters des Canadiens ont manifesté cet après-midi avant le coup d'envoi pour réclamer le départ du président Valdemar Chita. Un mot pour l'anecdote de la Serie A italienne avec un record battu du but le plus rapide. Raphaël Leao a marqué pour l'AC Milan à la 6e seconde.
La Coupe d'Europe de rugby, Emma, et le Racing 92 qui reste dans la course à la qualification pour les quarts de finale.
En surclassant les Harlequins de Londres 49-7, les Franciliens sont en tête de leur poule avec Lyon et Toulouse qui ont obtenu un deuxième succès sur tapis vert avec les forfaits d'Exeter et Glasgow à cause du Covid. Il devient le sportif français en activité le mieux payé. Rudy Gobert prolonge son contrat avec Utah Jazz, la franchise de NBA, pour 5 années supplémentaires et près de 170 millions d'euros.
Les montagnes italiennes qui réussissent, ma foi, Alexis Pinturo.
Le français qui vise cette saison le gros globe de cristal reprend la tête du classement général de la Coupe du Monde de ski alpin en remportant le slalom géant d'Alta Badia avec une courte marge de 7 centièmes. Une victoire qui compte plus que les autres pour Alexis Pinturo.
Une grande joie, c'était un objectif pour moi de venir remporter ici une victoire à la Grande Risale. Ça m'était encore jamais arrivé, j'avais déjà tourné autour, mais là c'est enfin dans ma poche. Donc ça fait partie de ces grandes classiques qu'on a envie de gagner, qu'on a envie de ramener à la maison. Et donc maintenant ça en fait partie et j'en suis très heureux. Content de retrouver le podium et en plus de ça la meilleure des places. Donc ça c'est très positif. Maintenant il faut aller se reposer.
Du repos en vue du slalom demain pour Alexis Pinturo et ses concurrents. Pas de victoire, pas de podium même pour les Bleus du biathlon à la Mastart d'Auschwitz en Autriche. Emilien Jacquemin, deuxième de la poursuite hier, n'arrive que cinquième. Julia Simon est septième chez les femmes. Et puis le Vendée Globe, Yannick Bestaven à bord de Maître Coq est toujours en tête ce soir. Un dernier mot de handball. La France prend la tête de cette finale face à la Norvège. 19-18 désormais pour les Bleus. À 6 minutes de la fin du match, on peut croire à cette deuxième étoile européenne, Frédéric.
Oui, une belle remontée. Direction maintenant Garges-lès-Gonesse dans le Val-d'Oise pour parler des associations de quartier et de leur travail à travers le sport auprès d'une jeunesse qui se dit oubliée et confrontée au chômage. Un sentiment accentué avec la crise sanitaire. Une digue républicaine est en train de sauter, expliqué lors d'une manifestation cette semaine devant l'Assemblée nationale. Une centaine d'élus des villes dites populaires. Un Grenelle de l'éducation et de l'insertion par le sport aura lieu le 1er février prochain. Il y a urgence. La crise sanitaire met en péril l'action de ces associations de quartier. Reportage au Boxing Club de Garges-lès-Gonesse. C'est le long format de ce soir. Guillaume Batin.
1, 2, retrait. Là, et tu termines en France.
Le club de boxe de Garges-lès-Gonesse accueille 250 jeunes, dont 70 filles du quartier de la Dame Blanche Nord, du lundi au samedi. Ici, on apprend la boxe anglaise et la boxe thaï. On prépare les champions, notamment 5 boxeuses championnes de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais l'action du club dépasse le cadre sportif. Khalid Zaouch est le président du Boxing Club.
On a plus un rôle d'éducateur. On met tout un travail autour de la citoyenneté, autour du bien vivre ensemble, hommes-femmes, autour des relations avec les seniors, autour de l'ouverture. L'idée, c'est un esprit sain dans un corps sain. C'est ça le plus important. Donc effectivement, ça dépasse la frontière de la pratique de la boxe. Ben là, on est dans la salle pour le citer, Fouad Djebari, qui est champion de France et qui, à côté de ça, est ingénieur. Donc de facto, c'est un exemple et c'est une locomotive pour les autres jeunes. Ils disent, il est sportif de haut niveau, mais à côté de ça, il a aussi réussi à faire des longues études. Et on leur dit c'est possible.
Le club de boxe est attentif au comportement des jeunes à l'extérieur, mais aussi à leurs résultats scolaires. Avant le confinement, certains étaient récompensés par une paire de chaussures, une sortie dans un parc d'attractions ou une place au centre culturel de la ville. Mais aujourd'hui, les moyens manquent pour les pratiquants du dimanche et pour les boxeurs professionnels.
Pour Paris 2024, on voit déjà qu'on est largement en retard. Sur le Val d'Oise, on sent que les JO vont être à 10 minutes de chez nous et qu'on n'est pas du tout concerné. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de passerelles à faire autour de l'emploi, autour de l'insertion, autour de la formation de nos jeunes, parce qu'ils sont passionnés, ils aiment le sport. Et si en plus, derrière, on peut faire en sorte de les former pour participer et travailler sur cet événement planétaire, ça, il y a quelque chose à faire. Et on attend beaucoup de ce Grenelle du sport, justement. C'est important.
Et ce Grenelle du sport, le jeune maire de Garges-lès-Gonesse, 31 ans, Benoît Jiménez, en est à l'origine.
Aujourd'hui, on fait face à une crise sanitaire sans précédent. Mais la crise sociale et économique qui nous arrive en pleine face dans les semaines et les mois qui viennent va être fatale pour les quartiers populaires. Et si on ne se rend pas compte en fait, de la valeur des clubs sportifs dans nos quartiers, et notamment d'un point de vue de la relance économique, parce que le monde sportif peut et doit jouer aussi son rôle, alors on n'a rien compris. Et nous, c'est ce qu'on essaie de porter aussi. C'est que le monde du sport, l'économie du sport, doit aussi participer au plan de relance dont on parle beaucoup. Et on ne voit pas le premier euro pour justement le monde sportif amateur dans nos quartiers populaires. Donc la crainte, elle est là.
Le Grenelle de l'éducation et de l'insertion par le sport aura lieu le 1er février à Garges-lès-Gonesse.
Là, encore, dernière fois, allez, là.
C'est bien. Merci.
Guillaume Batin, à Garges-lès-Gonesse.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité à venir. Une semaine entre inquiétude et espoir face à l'épidémie du coronavirus, inquiétude en Europe avec un reconfinement pour l'Italie. La mesure sera mise en place jeudi, veille de Noël. Et puis l'espoir du vaccin contre la maladie avec la réunion demain, lundi, de l'Agence européenne du médicament pour autoriser le vaccin Pfizer-BioNTech en Europe. Demain, lundi également, dernier conseil des ministres de l'année en visioconférence. Et puis à Marseille, le conseil des ministres se réunit pour élire un nouveau maire après la démission de Michel Rubirola. Mardi, en Suisse, la Suisse qui ne parle pas de reconfinement ferme ses restaurants et ses établissements sportifs et culturels. Et puis, bien sûr, jeudi soir, messe de minuit sans public à Bethléem et à Paris, concert de Noël à huis clos à la cathédrale Notre-Dame. Dans l'actualité hors coronavirus la semaine prochaine, les élèves de terminale ne seront pas tout à fait encore en vacances. Le site Parcoursup ouvre demain. Les lycéens et les étudiants en réorientation vont pouvoir commencer à consulter et à s'informer sur les différentes formations proposées. C'est l'étape préalable à la procédure d'inscription, Sonia Princé.
C'est à partir du 20 janvier que les candidats pourront commencer à s'inscrire et à formuler des vœux. Pas de changement, 10 vœux maximum, non classés. La date limite est fixée au 11 mars. Les élèves recevront les réponses à partir du 27 mai jusqu'au 16 juillet. Ce qui change, c'est la prise en compte cette année des résultats du bac nouvelle formule. Jusque-là, seules les notes obtenues en classe de première au bac de français figuraient dans le dossier de l'élève. Désormais, Parcoursup intègre les notes des évaluations communes. En l'occurrence, en raison de la crise sanitaire, ce sont les moyennes des bulletins scolaire et les notes qui seront obtenues aux épreuves sur les enseignements de spécialité prévues mi-mars en terminale. Ces choix de spécialité permettront aux commissions d'examen des vœux d'avoir une idée plus précise du projet de l'élève. Mais attention, en principe, une candidature ne peut pas être rejetée au motif que tel enseignement n'a pas été suivi. Les formations ne peuvent faire que des recommandations sur les spécialités à privilégier, ce qui aidera les élèves à faire leur choix en fonction des chances qu'ils ont d'être sélectionnés, surtout dans les filières très demandées Au total, plus de 17 000 formations seront proposées cette année.
Et puis la bonne nouvelle de la semaine dans cette actualité lourde et difficile. Dimanche prochain, 27 décembre, début de la campagne de vaccination contre le coronavirus à travers l'Union européenne. L'actualité de la semaine prochaine, c'est bien sûr la petite fenêtre du réveillon de Noël, un bol d'air, d'espoir et de retrouvailles pour beaucoup d'entre nous. Sandrine Oudin s'est intéressée cette semaine au gagnant du jackpot de 200 millions au loto, gagnant qui s'est manifesté cette semaine. Il vivrait près d'Arcachon et il est entré du jour au lendemain dans le top 50, dans le top 500 des Français les plus riches. Que peut-on faire avec 200 millions ? Sandrine Oudin a posé la question à Isabelle Césari. Elle est responsable du service grand gagnant à la Française des Jeux. C'est elle qui remet l'échec et bizarrement, ou pas d'ailleurs, vous allez l'entendre, Isabelle Césari ne saurait pas trop quoi faire avec cette somme folle.
C'est pas du tout une question de montant parce qu'il y a des montants de l'ordre d'un million d'euros qui génèrent une émotion extrêmement forte. Ça dépend de l'histoire de chacun, ça dépend de ce qu'il est, ça dépend...
Ça veut dire que 200 millions, pour vous, ça sera pas forcément le moment le plus émouvant.
Absolument pas. Moi, c'est pas le chèque que je regarde, c'est la personne que j'ai en face de moi. Il y a des histoires de vie qui sont particulièrement émouvantes et donc moi, c'est avant tout ça que je retiens.
Par exemple ?
Une chose qui m'a frappée, c'était au début où je faisais ce métier, une remise de gains à un couple de retraités qui était venu accompagner de leur fils. Et leur fils était militaire. Il avait fait des missions en Afghanistan, des choses quand même assez dures. Et lorsque j'ai remis le chèque à ses parents, je l'ai vu fondre en larmes.
Autre exemple.
Soit des rêves d'enfants qui vont pouvoir être réalisés, soit des reconversions qui sont imaginées. Et on se dit à ce moment-là, lorsque je tends le chèque, tiens, mais maintenant, c'est possible. Par exemple, quelqu'un qui travaillait dans un bureau, qui devient photographe parce que c'était sa passion, qu'il avait complètement enfoui et qui là il va pouvoir en faire son métier. C'est ce que nous confient tous les gagnants. Ce qu'ils ont gagné, c'est de la liberté, du temps pour eux. Et il y a des choses qui ne se disent pas forcément mais qui s'échangent aussi par les regards, qui moi personnellement me touchent beaucoup.
En fait, ça, depuis combien de temps Isabelle ?
Presque 4 ans.
Quelque part c'est super dur en même temps. Je connais pas Otis de paix, mais remettre des chèques.
Ah, ça me permet de rencontrer des personnes avec des univers tellement différents. Il se passe des choses extrêmement fortes et ça vaut tout l'or du monde.
Et vous, vous vous imaginez 200 millions d'euros ? À grand blanc, là.
200 millions d'euros.
C'est moi, Isabelle Césari. Vous êtes Sandrine. Tout de suite, là, Isabelle. Je vous remets 200 millions d'euros. Vous faites quoi maintenant, là, tout de suite ? J'aime bien le nombre de E du service grand gagnant, les FDJ.
Eh ben, on saura pas. La question n'est pas simple. 200 millions d'euros, le temps de gagner, on va y réfléchir. C'est mon actu. Sandrine Oudin, ce soir avec Isabelle Césari. Au générique de cette édition, Dienab Sangaré et Mathias Alléon à la technique qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Lionel Thompson à la rédaction en chef, assisté de Swad Bellani et Sébastien Donna. Merci à eux, merci à vous de nous avoir écoutés. Le temps pluvieux pour demain.
La météo avec les poulets de Loué. Par tous les temps, les fermiers de Loué élèvent leurs poulets en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski.
La perturbation arrivée par le Finistère dans la soirée de dimanche va donner un temps pluvieux ce lundi sur la plus grande partie du pays en circulant de l'océan vers les régions de l'Est qu'elle atteindra en fin de journée. Les pluies seront plus marquées entre la Bretagne, le Poitou-Charente et le nord de la Seine. Autour de la Méditerranée, là, les précipitations seront généralement faibles et la Corse va totalement rester à l'écart et conserver un soleil vaillant. Et puis, dans le quart sud-ouest, les conditions vont progressivement s'améliorer en seconde partie de journée. Le vent sera également de la partie avec des rafales vers 70 km par heure de secteur sud dans la vallée du Rhône et plutôt de sud-ouest du nord de la Loire à la Belgique. Un flux perturbé permettant aux températures diurnes de garder un bon niveau pour la saison. Par contre, le début de la journée sera plutôt frais du nord-est à Rhône-Alpes et dans le quart sud-ouest avec 1 à 3 degrés du Quercy à la Bigorre sur l'Alsace et la Bourgogne.
Jean-Michel Golinski de Météo France, le temps de vous donner le résultat de la finale de l'Euro de handball. Les Françaises ont perdu, les Norvégiennes gagnent 22 à 20.